Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un podcast de l'Académie, un enregistrement réalisé à partir d'une session de sensibilisation proposée aux adhérents du Mouvement des entreprises de France. Pour toute question ou réaction liée à cette session, n'hésitez pas à vous rendre sur le site l'académiemedef.fr, rubrique Contact. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire avec l'Académie MEDEF sur les bons gestes en cas d'attaque cyber. Donc, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, Maxence Demerger, je suis directrice numérique au MEDEF. Je suis la Sherpa de la commission Mutations technologiques et impacts sociétaux. Alors, notre mission à la commission est d'anticiper les grandes mutations technologiques numériques principalement, de les décrypter avec vous et pour vous. Alors, je remercie beaucoup l'Académie du MEDEF pour le programme très complet qui a été diffusé en matière de sécurité économique. Plusieurs aspects de cette sécurité vont être abordés. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir deux intervenants extrêmement compétents sur les problématiques de cybersécurité et de cybermenaces. Ils vont vous partager ce matin les actions à prendre en anticipation, mais aussi surtout à chaud. C'est sur ce point que nous allons nous concentrer ce matin. Alors, pour introduire le démarrage, donc à ma droite, le colonel Barnabé Vatin-Hogard, donc si je ne me trompe pas, et vous me corrigez, chef de la division proximité numérique, commandant de la gendarmerie dans le cyberespace. Alors, merci, le colonel, la gendarmerie nationale et le MEDEF ont une convention de partenariat. Nous la faisons vivre aussi par cette forme de coopération d'information. Donc, cette convention nous invite à un partenariat étroit pour faire face à tous les risques et menaces des entreprises et donc leur pérennité économique. Dans un contexte d'une menace cyber accrue que vous allez nous rappeler, vous nous direz quelle organisation la gendarmerie a mis en place pour faire face à ces risques et surtout comment on peut recourir à son support. Denis Boyer, vous êtes chargé de mission à cybermalveillance.gouv.fr, en charge plus particulièrement de la sensibilisation et du risque cyber. Vous allez d'abord nous rappeler ce que c'est, cybermalveillance.gouv.fr, ce que le MEDEF, ce qu'on fait avec vous, et ce qu'on fait, d'utile pour les entreprises qui nous écoutent, comment les entreprises peuvent trouver auprès de vous de la ressource et comment vous les aider en cas de crise. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Là, pour le coup, je voudrais être sûre que... est-ce que j'ai bien appuyé sur le truc? Oui.
Si vous pouviez nous, dans le chat, voilà. Nous faire un petit signe pour être sûr que le son est correct.
Pour les auditeurs et les auditrices, si vous avez des questions, je vais être en charge du chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vais les répercuter à nos intervenants. Et je leur passe tout de suite la parole. Donc, colonel, précision, sachant que le webinaire est enregistré, voilà, pour pouvoir le rediffuser. Format podcast. À vous la parole.
Merci Maxence. Bonjour à toutes et à tous. On va passer un petit moment ensemble avec mon camarade à voyager un petit peu dans le monde de la cybersécurité, dans le monde, de la lutte contre la cybercriminalité pour qui me concerne. Et j'aimerais commencer un petit peu avec vous par partir un peu d'un aspect de définition. On parle souvent de cybersécurité comme une sorte de d'aspect technique, c'est une fonction, c'est un élément particulier. J'aimerais pour vous partager alors au sein de cette première slide ce que la définition qu'on se donne de la cybersécurité. Alors cette première slide part de sécurité sûreté, vous voyez, en reprenant ce qui est traditionnellement appelé le triangle du feu. Pour qu'il y ait un incendie, il faut un comburant, un combustible de la chaleur. En termes de prévention, on limite un de ces trois éléments. Et en termes de lutte, on essaye d'en supprimer un pour pouvoir éteindre l'incendie quand il a lieu. Pour un cambriolage, vous le voyez, c'est un petit peu la même idée. Alors, on est plus sur un aspect voleur et un bien à voler, etc. Et là, on est bien sur une notion d'un état. Je suis en sécurité, je suis en sûreté. Et bien, en fait, la cybersécurité, si on en reprend même la définition de l'ANSSI, c'est bien ce même état, un type d'état qu'on recherche. Je suis en cybersécurité quand je prends des mesures nécessaires pour éviter au maximum une attaque et y remédier. Alors souvent, on a tendance à partager la sécurité des systèmes d'information, hein, que vous voyez en haut, la partie lutte contre la cybercriminalité et la partie, alors là on l'a appelé cyber-résilience, on pourrait prendre cyber-défense, même si parfois malheureusement ce terme a une connotation trop étatique et militaire, mais enfin tout le monde peut faire de la cyber-défense. Et vous voyez que, mine de rien, l'ensemble de ces éléments sont quand même étroitement liés. Ici, contrairement aux autres triangles qu'on vous a présentés, une cyberattaque, alors elle peut être visée à un système d'information ou utiliser, je dirais, un système d'information comme un effet démultiplicateur, c'est notamment le cas de tout ce qui est utilisé en termes d'escroquerie, elle utilise toujours trois éléments, l'attaquant, le cyberattaquant, des vulnérabilités, alors qui peuvent être techniques, voilà, je ne suis pas assez protégé, ou il y a des failles dans l'ensemble de mes logiciels. La plupart du temps, malheureusement, des vulnérabilités humaines. Il ne s'agit pas ici de critiquer les agents, les salariés, etc. Mais c'est vrai que souvent, c'est une opération, j'ose espérer la plupart du temps, involontaire, voilà, qui va être la première porte d'entrée pour un cyberattaquant. Et un élément très important, la partie qui est souvent visée, la partie données, la partie service. Alors les données, ça peut être la donnée stockée sur un disque dur, ça peut être le flux de données qui transite à travers un réseau. Et la plupart du temps, pour les cybercriminels, puisque les cybercriminels, leur seul but, c'est de gagner de l'argent, quelles que soient d'ailleurs les motivations derrière. On peut avoir des cybercriminels qui louent leur service, alors pourquoi pas une puissance étatique, hein, mais qui le louent pour faire du cyberactivisme, comme on le voit quelquefois. Certes, derrière, il peut y avoir une idéologie développée. Eux, leur but, c'est toujours de gagner de l'argent. Alors, on le voit un petit peu comme l'ensemble des phénomènes qu'on a évoqués, que ce soit le feu ou le cambriolage. Pour se prévenir, il faut limiter les vulnérabilités. On serait tenté de dire aussi limiter les données. Ça, c'est, je pense, une vraie réflexion qui doit être menée au sein des organisations. On l'évoquait d'ailleurs en avance un petit peu tout à l'heure. On a tendance à avoir maintenant dans un système où tout est hyper connecté et le stockage n'est plus un sujet, de stocker un maximum et puis de se donner un accès à l'ensemble de ces données, y compris depuis l'extérieur. Beaucoup de données qu'on stocke, parce qu'on n'est plus limité effectivement par ce stockage, ne nous servent plus ou peut-être qu'on envisage un jour de s'en servir. Donc elles nous servent entre guillemets plus, mais elles sont pourtant connectées. En revanche, pour un cybercriminel, même si les données sont un petit peu datées, elles peuvent être toujours utilisées. Alors, je vous présente très rapidement une slide qui a été faite notamment par l'INEJ, qui est devenu l'IHEMI, donc l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, qui paraît comme
peur,
voilà, qui a pas vocation à faire peur, mais c'est pour montrer un petit peu cet écosystème à la fois étatique. Ou para-étatique, hein, si on prend le GIP ACIMA, pour vous montrer un petit peu cette sphère de ceux qui agissent dans la cybersécurité au sens large, que ce soit dans la lutte contre la cybercriminalité, la sécurité des systèmes d'information ou la cyberdéfense. Si on regarde un petit peu ce qui est... alors sur l'écran, oui, c'est la même chose. Sur la gauche, on a plutôt la partie cyberdéfense-renseignement, avec à la fois les forces armées et les services de renseignement. Au centre, vous avez plus particulièrement l'ANSSI, hein, l'ANSSI qui est l'autorité nationale, alors qui chapeaute un peu l'ensemble des éléments du spectre, que ce soit la doctrine en termes de cybersécurité des systèmes d'information, la cyberdéfense des opérateurs d'importance vitale et des administrations de l'État. Et puis sur cette partie droite, bien la lutte contre la cybercriminalité. Alors vous retrouvez bien évidemment nos camarades de la police. La police, que ce soit la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la police nationale, la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police et le commandement cyber de la gendarmerie. Alors ce commandement cyber de la gendarmerie, juste pour vous présenter un peu ce qu'on est, on n'a pas voulu mettre un organigramme parce que c'est souvent un peu rébarbatif, c'est une entité qui a été créée le 1er août 2021. Alors souvent on nous dit qu'est-ce que vous faisiez avant. On en faisait bien évidemment avant de la lutte contre la cybercriminalité. Nos premières unités en la matière remontent à 1992. L'idée du directeur général a été de fédérer l'ensemble des missions au sein d'un commandement unique. Et vous voyez en fait ces quatre grandes missions qui sont la première mission qui arrive en général, je dirais, en amont de tout ce qu'on peut être amené à faire, tout ce qui est prévention bien évidemment. Et là le champ de la prévention est immense et je dirais sans fin. Je veux dire, on prend notre pas contre la main régulièrement pour sensibiliser que ce soit les collectivités territoriales, les entreprises et même les usagers. Dans cette prévention de proximité et cette proximité, on a rajouté la partie contact numérique, hein, qui est assuré chez nous par la brigade numérique qui assure ce sont nos chatbots, hein, mais ce sont des vrais gendarmes, qui assurent la veille permanente d'un chat disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui répondent à l'ensemble des questions liées à la sécurité, et notamment aux questions liées aux cybermalveillances, en partenariat avec cybermalveillance.gouv.fr. L'autre aspect, bien évidemment, là on rentre plus dans le cœur de ce que font les gendarmes, vous en doutez bien, c'est l'aspect intervention, investigation, enquête judiciaire quand il y a une attaque. Une autre mission, bien évidemment, c'est l'appui aux opérations numériques. Là, on rentre dans l'expertise, être capable d'exploiter des éléments de preuve, alors que ce soit des fichiers, mais aussi des matériels physiques, quel que soit, même jusqu'à un état très dégradé, hein, on est capable de retrouver des informations, enfin, peut-être pas toutes, mais une partie des informations, même sur un disque dur qui peut être brûlé, cassé, ou qui a passé un certain temps dans l'eau. Et une partie, un peu stratégie partenariat. Alors, partenariat est indispensable dans le domaine de la cybersécurité, puisque on voit bien que le champ est immense, tout le monde ne peut pas faire tout seul, et que, bien évidemment, il faut travailler tous ensemble pour faire évoluer les choses. Si je prends avant, on prenait une image, de dire la gendarmerie, c'est un petit peu une poupée russe. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est peut-être pas forcément le terme le plus adapté. Disons on est sur un principe de subsidiarité. Comme pour l'ensemble des affaires, mais c'est vrai dans l'affaire de la lutte contre la cybercriminalité, on part toujours d'une brigade de gendarmerie où vous allez avoir quelques compétences de base, soit en termes d'expertise technique, soit en termes d'enquête. Et puis plus la complexité de l'affaire, plus les complexités techniques se développent, plus on monte de niveau, que ce soit au niveau départemental, régional et au niveau national. Voilà. En tout, c'est actuellement 7000 cyber-enquêteurs sur l'ensemble du territoire, y compris Outre-mer, avec un objectif, à l'horizon fin 2023, d'arriver à 10 000 cyber-enquêteurs. Une fois qu'on a dit ça, on va parler un petit peu de ce que ça représente quand même, cette fameuse cybercriminalité. On la voit pas forcément souvent, on peut en entendre parler, que ce soit dans la presse quotidienne régionale assez souvent, mais on ne se rend pas compte forcément de ce qu'il y a derrière. Et là, sur ces deux graphiques, ces deux éléments, j'ai voulu vous montrer un petit peu les aspects, parce que ça rapporte quand même aux cybercriminels, et on voit que ce qui est estimé au niveau mondial, c'est un peu plus de 1500 milliards de dollars de recettes. Alors c'est absolument colossal. On voit que plus de la moitié, hein, un peu plus de 860 milliards, ce n'est ni plus ni moins que la transhumance, j'appelle ça la transhumance des cybercriminels de la vie réelle à la plateforme Amazon du crime. Hein, alors j'ai rien contre Amazon, mais le e-commerce du crime. Voilà, on utilise la vente en ligne de l'ensemble des produits qu'on peut imaginer, de la drogue, des cigarettes, des produits de contrefaçon, etc. Et on voit que ça rapporte un chiffre assez important. Si on regarde sur l'aspect rançongiciel, auxquels les gens le pensent le plus souvent, on voit que le rançongiciel, et ça c'est la partie rançon, ne rapporterait que 1 milliard. Alors le chiffre est encore une fois une estimation, c'est peut-être pas 1 milliard, c'est peut-être 10, c'est peut-être 100. Quoi qu'il arrive, c'est pas le cœur de ce que rapporte la cybercriminalité. Et on le voit en prenant les deux parties de camembert, orange et grise, qui sont, je dirais, la revente de données en sens large, que ce soit les données à caractère entre guillemets personnel, mais aussi les données qui sont liées au secret des affaires, à la propriété intellectuelle, etc., on voit qu'on est à peu plus de 40% des revenus. Donc les données restent bien l'élément clé pour les cybercriminels pour gagner de l'argent. À côté de ça, vous avez le coût de la cybercriminalité au niveau mondial. Donc dans ce coût, vous avez bien évidemment les revenus, vous avez la partie du marché normal de cybersécurité, hein, de vente de produits de cybersécurité, et vous avez tout ce qui est surcoût lié à l'ensemble des attaques, et on voit qu'on arrive à un chiffre assez colossal, et ce chiffre, bien évidemment, les deux chiffres sont amenés à évoluer dans les années à venir. Quand on passe du côté, je dirais, du côté gendarme des choses, on voit, en regardant en bas, que depuis deux ans, on est sur une augmentation de l'ordre de 20% chaque année des procédures qu'on reçoit, des plaintes. Il y a bien évidemment, comme on le sait, un chiffre noir. Les gens ne portent pas plainte, n'osent pas ou n'y pensent pas. Et on arrive à une augmentation assez colossale, avec quand même un aspect important dans le graphique que vous avez à gauche. On voit que la majeure partie, enfin les trois quarts de ces infractions constatées sont liées à des escroqueries, où là on utilise le vecteur Internet les mails et enfin, tout ce qu'on peut envisager, comme facilitateur, je dirais, de l'escroquerie. Avant, on avait des escrocs qui faisaient un peu de porte-à-porte, et puis ils ont fait un peu de courrier. Ça coûte cher, ça demande du temps. Là, on appuie le matin sur un bouton qui envoie, après avoir loué quelques services plus ou moins malveillants, 100 000, peut-être 1 million de mails, et puis on a lancé un filet à la mer, et on revient en fin de journée voir qui a mordu à l'hameçon et commencer à soit récupérer des informations à caractère personnel, soit escroquer d'un point de vue financier. L'autre partie des infractions, toute petite partie en haut, c'est la partie jaune, c'est ce qu'on appelle le autre. Là, c'est vraiment ce qui est lutte contre le trafic illicite. Alors le chiffre est assez faible, puisqu'en fait, il n'y a pas de plainte. Les gens ne portent pas plainte parce qu'ils ont trouvé quelque chose, notamment sur le Darknet. On est clairement sur la découverte fortuite faite par les gendarmes. Un autre élément assez important, et malheureusement un peu en croissance quand même, c'est tout ce qui est atteinte aux personnes, alors avec tout ce qui est cyberharcèlement, haine en ligne, etc., phénomène qui prend de l'ampleur, alors qui a toujours existé, je veux dire, la haine a toujours existé, mais vous voyez bien qu'avec les réseaux sociaux, on est sur des phénomènes démultiplicateurs. Et puis, l'attaque informatique en tant que telle, alors avec un terme qui est un petit peu barbare, mais c'est l'atteinte au système de traitement automatisé de données, alors vous voyez qu'au final, ça représente assez peu. Alors, il y a un chiffre noir, ne me demandez pas comment il a été calculé, mais qui dit qu'en gros, il y a une plainte sur 250 affaires. Donc, c'est un peu un chiffre qui a été estimé entre des enquêtes de victimologie et les chiffres qu'on retrouve. Et on voit que, voilà, sur ces atteintes au stade, on est sur à peu près un tiers qui sont liés au rançon judiciaire. Alors je vais juste vous donner deux petits exemples très rapides, et puis après je laisserai la parole, mais pour vous donner un peu ces deux types d'infractions, l'infraction je dirais qui regroupe un peu l'idée escroquerie, et puis après l'infraction logicielle. Alors je vous donne un exemple, je citerai pas le nom des sociétés. Et voilà, une première type d'arnaque, alors qui est plus récente que ce qu'on a malheureusement souvent connu, ce qu'on appelle les attaques au faux président, les arnaques au président, où on se fait passer pour le président pour avoir un virement. Là, c'est un système un petit peu plus élaboré. Donc là, on était sur une PME qui vendait des produits de quincaillerie. Et une des boîtes mail d'un des fournisseurs, a été piratée par un pirate qui s'est mis un petit peu ce qu'on appelle le man in the middle, l'homme au milieu, et qui en fait qui suivait l'ensemble des conversations. Alors il ne les suit pas au jour le jour, il se met juste quelques mots clés, il se fait rerouter les mails, et quand il voit apparaître quelque chose de type facture, RIB, etc., il intercepte la conversation. Le principe est simple, il y a une facture qui a été envoyée, c'était de l'ordre de 70 000 euros de fournitures diverses. Le pirate intercepte le mail, modifie le RIB. C'est-à-dire qu'il garde le même mail, il modifie juste le RIB à l'intérieur, tout en le rendant le RIB complètement cohérent. Ça reste la même banque, ça reste le même nom, il y a juste en gros l'IBAN qui change. La société reçoit le RIB, c'est quelqu'un avec qui ils ont l'habitude de travailler, ils effectuent le virement, et bien évidemment le fournisseur n'a jamais été payé. Alors ça c'est une escroquerie qui demande un peu de temps, un peu de préparation, un peu de chance d'avoir la capacité d'intercepter une boîte mail, mais c'est quelque chose qui se met en place assez régulièrement. Avec un peu la difficulté qu'on rencontre liée au numérique, c'est que autant avant les gens amenaient une facture physiquement, on avait des échanges parfois téléphoniques pour vérifier. Maintenant, on a une confiance totale dans le mail. Le mail est réputé, je dirais, authentique puisque c'est bien la boîte mail du fournisseur qui émet le mail. Mais voilà, malheureusement, on ne vérifie pas, etc. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Ça se développe beaucoup dans toutes les professions réglementées. Je penserais aux notaires, aux huissiers, aux commissaires-priseurs, où il y a forcément, potentiellement, beaucoup d'argent dedans. Et là, ben voilà, ils se focalisent sur des endroits où ils peuvent faire des arnaques, où il y a un coup à jouer assez rapide. L'autre exemple, alors là, j'ai pris un déroulé, je dirais classique, entre guillemets, de ce que c'est qu'un rançon logiciel. C'est pour vous montrer un petit peu le mode de progression d'une attaque par rançon logiciel. Alors, je passe sur l'aspect initial, comment il développe le système. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand même, on voit qu'il y a une séparation de deux lignes. Vous avez soit des groupes cybercriminels qui sont capables de développer eux-mêmes leur rançon logiciel. Alors, le développement, c'est pas juste un petit programme, c'est une ensemble d'équipes avec chacun ses fonctions bien précises. Mais il y a maintenant la possibilité sur le Darknet d'acheter un package complet, que ce soit le logiciel, mais même parfois les accès préexistants, puisqu'il existe parfois des accès préexistants dans un certain nombre d'organisations. Le principe est assez simple. La reconnaissance, donc ce qu'on appelle l'identification de la cible, elle se fait assez souvent par hameçonnage. Pour prendre le cas qui me concernait, un hameçonnage, voilà, on a lancé des mails alors, qui étaient assez ciblés sur ce type d'entreprise dans ce cas-là. Mais c'est un hameçonnage qui a permis l'installation d'un petit logiciel qui va commencer, lui, à explorer l'intégralité du réseau, à commencer à regarder comment est fonctionné, comment est constitué le réseau, à voir ce qui est intéressant comme données, etc. Et petit à petit commencer, de façon très discrète, bien évidemment toujours la nuit, de façon limitée, mais à commencer à exfiltrer un certain nombre de données, en général les données à caractère sensible. Cette opération, sur cette affaire-là, on estime, parce que c'est souvent très difficile de trouver la source, et puis la fin, on la connaît, parce que c'est la partie chiffrement, hein, donc c'est ce que les gens voient à la fin, ce chiffrement de l'ensemble des données, c'est à peu près 2 mois et demi. Pendant 2 mois et demi, il y a cette recherche d'informations, alors autre élément un peu technique, mais une recherche d'augmentation des niveaux de privilèges, c'est-à-dire qu'on part sur un utilisateur lambda, mais petit à petit, en grenouillant, on arrive petit à petit à agréger les droits, enfin à élever ses droits et à devenir administrateur en fait de l'ensemble du système. Voilà. Donc l'opération pour le pirate. Alors même si on ne sait pas combien de temps dure la phase développement, l'opération en 2 mois et demi, voilà, il a l'ensemble des éléments. Pour vous donner l'exemple important sur cette affaire-là, alors qui a pu être résolue grâce à de bonnes pratiques, et je pense qu'on reviendra après, notamment de sauvegarde de données faites dans les règles de l'art, mais on est sur un coût, le chiffre d'affaires était de l'ordre de 100 millions d'euros, on est sur un coût direct, donc de remédiation, etc., de l'ordre de 1 million d'euros, donc quasiment 1% du chiffre d'affaires. Des pertes liées à ce qu'on pourrait appeler une sorte de perte d'exploitation, enfin, ou du passage au tout papier, qui pourrait atteindre, même si c'est pas encore complètement défini, 2 millions d'euros, plus tous les enjeux financiers derrière, est-ce que quelqu'un, un des usagers qui a eu des données personnelles exfiltrées, porter plainte, etc., on n'en a pas encore téléphone. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu ces deux exemples sur deux types d'infractions, puis je vais laisser la parole.
Alors, avant de passer la parole à Denis, Colonel, est-ce que vous pouvez nous dire, effectivement, vous êtes au plus proche du terrain, une entreprise qui a une cyberattaque, on le reverra avec Denis, mais quand même pour rebondir sur vos propos, en général, elle met combien de temps à s'en apercevoir, et quand elle s'en aperçoit, est-ce qu'elle doit tout de suite vous appeler, et par quel biais? Est-ce que c'est par le chat dont vous avez parlé? Est-ce qu'il y a un service qu'il faut privilégier?
Alors, combien de temps pour s'en apercevoir? Il y a des entreprises qui ne s'en aperçoivent jamais. Non, mais c'est cool à dire, mais là, on est peut-être sur des choses beaucoup plus poussées en termes d'espionnage, ne serait-ce que de patrimoine, etc., de rester persistant pour voir ce qui se passe dans les échanges, dans l'ensemble des échanges d'une entreprise. Pour un rançongiciel, ça peut être soit très travaillé avec cette exfiltration de données, et là, ça peut être le temps qu'il lui faudra pour explorer le réseau, ça peut être quasiment instantané, s'il n'y a pas de recherche justement d'extraction de données. Pour vous donner un exemple, on a fait un test avec une source de rançongiciel qu'on a eue, un ordinateur lambda de classe Windows, dans lequel vous avez, je dirais, ce qu'il y a de base, plus que quelques dizaines de milliers de documents PDF divers et variés, enfin rien de transcendant, en 3 minutes, l'intégralité est chiffrée. Alors, sachant qu'ils ne chiffrent pas intelligemment, qui dit chiffrer dit la puissance de calcul et du temps, ils vont pas chiffrer les fichiers de Windows, par exemple, ou ils vont pas fichier les programmes. Ce qui les intéresse, c'est les données, donc les PDF, les images, enfin, tout ça. Et ça, c'est assez rapide. Alors, là, avec des clés, des systèmes un ordinateur très, très, je veux dire, très basique, hein, un ordinateur très puissant. Donc, c'est effectivement assez rapide pour chiffrer. Et quand on s'en rend compte, malheureusement, il est souvent trop tard. Alors, que faire dans ces cas-là? Alors, bien évidemment, il faut prévenir ses techniciens ou son prestataire de support. Ça me paraît une évidence. Il y a effectivement souvent, on aura l'occasion d'en parler, mais il y a un aspect un peu sidération, on ne sait pas trop qui prévenir. On en reviendra dessus. Il y a l'aspect porter plainte. Alors souvent, les gens qui disent porter plainte, on perd du temps. Avant de porter plainte, déjà, prévenez policiers, gendarmes, et par n'importe quel moyen, que ce soit quelqu'un qui se déplace physiquement, ça ne se fait pas beaucoup. On peut faire le 17, hein, appeler par téléphone, ne pas hésiter à utiliser le chat, voilà, et vous serez orienté, au moins on aura la capacité d'orienter vers les bonnes personnes.
Denis, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc cybermalveillance.gouv.fr, quel est cet organisme? Nous en sommes membres au MEDEF. Et voilà, si vous pouvez nous dire quels sont les outils et les éléments que vous proposez pour les entreprises. Vous ne vous adressez pas qu'aux entreprises, mais aujourd'hui, c'est à elles auxquelles je vous souhaite que vous vous adressiez.
Tout d'abord, merci pour cette invitation. Donc, merci Maxence. Alors,
cyber...
Oui, là, vous m'entendez bien. Ouais. Donc voilà, donc cybermalveillance.gouv.fr. Qu'est-ce que c'est? C'est donc un dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes. Comme le rappelait, alors je vais pas vous embêter un petit peu avec tout ça, mais je vous rappelle quand même une mission principale. Nous, nous adressons à trois types de publics. Nous adressons aux particuliers, nous adressons aux TPE, PME, collectivités territoriales et associations. Donc on est sur un public assez hétérogène et assez large. On a trois missions principales. Assister, informer, observer. L'assistance, elle se fait par le biais de notre plateforme. Vraiment, notre outil, c'est vraiment un outil qui est un outil en ligne, où le but va être d'expliquer aux gens comment, de quoi ils ont été victimes et comment ils peuvent s'en prémunir. Donc on a l'assistance par rapport à tout ce qui est parcours victime, l'assistance victime que je vais présenter un peu plus tard. L'information et la sensibilisation, c'est vraiment très important pour nous, c'est dans notre ADN. Plus les publics seront sensibilisés, plus ils seront informés, plus ils pourront avoir la bonne pratique. Et à partir du moment où vous avez la bonne pratique, déjà vous limitez les risques. Je ne dis pas que vous êtes protégé de tout, mais vous limitez les risques. Le but, c'est de réduire la surface d'attaque pour les attaquants et donc de permettre aux différents publics de pouvoir se prévenir. Et l'observation, l'observation se fait par rapport à nos parcours d'assistance en ligne, mais aussi par rapport à toutes les remontées que l'on peut avoir de la part de nos membres, dont le MEDEF, qui est vraiment un acteur important. Je vais pouvoir y revenir sur la slide suivante. Je vous donne encore quelques chiffres, ce sera le dernier. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est 56 organisations membres. On a à la fois des gens issus du public et à la fois du privé. Donc le MEDEF est l'un de nos membres, et à ce titre-là, il concourt à toutes les actions de lutte contre les cybermalveillances que nous mettons en œuvre, et il participe aussi à la gouvernance du dispositif. Très important pour nous d'avoir aussi bien les gens du privé et du public, parce que chacun, on va dire, a une part de sa vérité et peut participer dans un même effort à lutter contre les cybermalveillances. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est également plus de 1200 prestataires référencés sur l'ensemble du territoire. Ce sont des prestataires, là on est vraiment sur une solution qui est une solution pratique, qui sont des prestataires de proximité. Ils sont là pour intervenir en premier lieu, vraiment dans une option de rémédiation. Donc je vais y revenir un petit peu plus tard, je vais vous expliquer un peu tout ça. Notre plateforme, nous sommes très contents parce qu'en 2021, on a eu plus de 170 000 parcours victimes qui ont été faits sur notre plateforme, avec une augmentation de 65%. Depuis le début de notre dispositif, donc cybermalveillance.gouv.fr, c'est plus de 460 000 personnes qui ont fait ce parcours d'assistance victime. Pourtant, nous sommes jeunes. Hein. Nous existons.
On s'en réjouit.
On s'en réjouit parce que ça veut dire que quelque part, on commence aussi à être connu et qu'il y a un besoin, un réel besoin d'assistance aux personnes. Cybermalveillance est créé depuis 2017. Donc, en 5 ans de temps, on peut vraiment être fier de ce qui a été fait. Et croyez-moi, nous sommes tous motivés pour faire encore mieux cette année. C'est également presque 2 500 000 visiteurs uniques qui sont venus sur notre site à la recherche de contenu, de sensibilisation, d'information. Donc voilà, je vous parlais du parcours d'assistance victime. Le parcours d'assistance victime, c'est quoi? Alors c'est une simple application sur laquelle vous pouvez commencer, cliquer et essayer de découvrir de quoi vous avez été victime. Parce que souvent, nous nous rendons compte que les victimes, quelles qu'elles soient, savent qu'elles ont été victimes de quelque chose, mais elles ne savent pas de quoi. Donc ce parcours d'assistance victime est là pour les aider et à mettre un nom sur la cybermalveillance dont ils ont été victimes. Donc c'est un ensemble de questions modulaires, c'est environ 150 chemins différents qui vont amener un diagnostic. Et à la fin, la personne sera redirigée sur un contenu de l'une des 48 incriminations et cybermalveillances que nous avons identifiées. Donc on a une phase de diagnostic. Une fois que l'on a trouvé la cybermalveillance dont les personnes étaient victimes, on va amener des conseils. Les conseils, ce sont les conseils de premier réflexe. En gros, je suis victime de ça, qu'est-ce que je dois faire en premier lieu? On va donner des informations qui sont vraiment pratiques et non techniques. Le but étant de faire cesser au plus vite cette cybermalveillance. Et ensuite, nous allons aussi amener un ensemble de conseils par rapport à l'interlocuteur identifié pouvant répondre à la victime. Chez cybermalveillance, nous sommes agnostiques. C'est-à-dire que si le meilleur interlocuteur, c'est la gendarmerie, donc les services de Bernabé, pas de problème. Que ce soit côté police, que ce soit signal spam, si on est dans le cadre de tout ce qui est spam. Donc, voilà, ça peut être e-enfance en cas de cyberharcèlement. Donc voilà, donc là, le but, c'est de pouvoir amener les conseils de premier niveau et le bon interlocuteur. Et après, si la victime le désire, elle peut être mise en relation. Et là, je vous parlais de plus de 1200 prestataires référencés chez nous. Si elle le désire, elle peut être mise en relation dans un délai d'une heure. Elle aura une proposition de personnes, donc de prestataires référencés chez nous, qui pourront intervenir sur un premier niveau. Et ça, c'était donc plus de, on a eu beaucoup de victimes qui ont fait appel à ce service-là. Et ensuite, nous traitons ces demandes, et par rapport à toutes ces demandes et à l'intervention qui pourra avoir lieu chez la victime, il y aura l'émission d'un rapport, on est plus de 1600 l'année dernière, qui nous permettra de savoir effectivement si le contenu que l'on a pu propulser au demandeur était cohérent et correspondait à ses attentes. Et bien sûr, derrière, nous avons aussi tout ce qui est satisfaction de l'intervention si la personne a fait appel à l'un de nos prestataires. Alors tout ça, c'est parcours victime, donc je vous disais plus de 170 000 l'année passée, ça nous permet de sortir, parce que bon, tout le monde aime bien les chiffres, et nous, par rapport à ce que l'on voit, parce qu'on ne peut pas dire que l'on détient l'intégralité de ce qui se passe sur Internet. Nous, on a une vision qui est une vision parcellaire, des gens qui ont fait appel à nos services. Voilà, ce que l'on en a sorti en tout cas, on en sort un top 5 pour les entreprises et associations. Depuis, on va dire que c'est la troisième année où ce top 3 est vraiment dans le même ordre. Et on a en premier lieu le rançon logiciel. Le rançon logiciel, sur ses parcours d'assistance, c'est 24% des demandes. En deuxième lieu, le piratage de compte, 18%. Et en troisième lieu, l'hameçonnage. Donc là, ce top 3, avec une grosse augmentation, notamment en termes de rançon logiciel. C'est quelque chose qui était avant, on va dire, en deuxième ou troisième position, et qui, en 2019, tout d'un coup, est passé en première position. Et c'est vraiment l'impact, quelque chose qui impacte énormément, aussi bien les TPE, les PME, les collectivités territoriales, et bien sûr aussi les grands groupes, parce que les grands groupes sont aussi également très impactés. Alors, j'en parlerai un petit peu plus tard. Enfin, même dès maintenant, je vous parle un petit peu de ce top 3. Je vais faire un petit focus pour savoir de quoi on parle. Donc, je vous parlais de l'hameçonnage. Donc, le phishing en troisième position. Chez nous, on l'appelle la mère des attaques. Comme je le disais tout à l'heure, Barnabé, c'est souvent le prémisse d'une attaque beaucoup plus globale. C'est vraiment une menace qui est prédominante et qui s'est professionnalisée. Il faut savoir qu'à la base, on avait des mails qui étaient assez mal faits et on considérait que même la simple écriture qui était approchante en français permettait de distinguer cet hameçonnage, ce phishing. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, les choses qui respectent la charte graphique, qui sont très bien libellées, qui reprennent des éléments des personnages existants, et vous en avez notamment un qui existe, notamment l'infraction sur tout ce qui est pédopornographie, et qui usurpe parfaitement tout ce qui est gendarmerie, et qui fait des associations un peu bizarres, hein. Gendarmerie, Europol, on ne sait pas trop. Mais la personne qui reçoit ça, elle est dans un état de panique. Et elle est beaucoup plus enclin à répondre. Et c'est ça le but. L'hameçonnage, c'est d'accrocher son interlocuteur, soit pour qu'il se connecte sur un site qui est contrôlé par les pirates et qu'il donne des données qui sont personnelles, ou bien c'est de le faire cliquer et de faire télécharger insidieusement un malware qui ensuite va passer à la phase suivante. La deuxième, ce qu'on a remarqué, nous, vraiment, avec le grand confinement, c'est notamment le développement important des attaques par SMS. C'est vraiment un phénomène qui est majeur. Avant, on recevait ça sur ordinateur, sur son mail. Les gens sont devenus de plus en plus méfiants et font attention à ce qu'ils reçoivent par mail. Par contre, lorsque vous êtes sur votre téléphone mobile, vous êtes en mobilité et vous n'avez pas forcément l'habitude de vérifier. Vous êtes donc moins prudent et en plus de ça, à partir du moment où ça arrive sur le téléphone, on a plutôt tendance à faire confiance à ce qu'il y a sur son téléphone parce qu'on ne vous voit pas par hasard. Et bien c'est là, ça c'est vraiment le gros problème. Et donc les attaques par SMS On a vu notamment pour les phishing Amélie ou notamment des livraisons de colis. Le piratage de compte. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important. Et souvent, c'est à la suite d'un hameçonnage. Le but pour les pirates va être de s'attaquer à des choses telles que la boîte mail, parce que la boîte mail, c'est le carrefour. C'est à l'intérieur de cela qu'on a un énorme nombre de choses au niveau de la vie numérique. Et là, le pirate qui accède à une boîte mail saura, lui, rentabiliser cet accès par des virements directs ou bien pour accrocher des gens qui font partie de vos contacts. Donc voilà, donc on est vraiment sur une professionnalisation et sur les choses qui s'adaptent au contexte sanitaire. Le rançon logiciel. Le rançon logiciel, donc première menace pour les professionnels. Le rançon logiciel, ça attaque tout type d'organisation. Elles sont ciblées en nombre. On parle aussi bien de la TPE, de la PME, que du grand groupe. C'est un écosystème qui est vraiment, comme le disait Barnabé, qui est vraiment bien développé. Hein. Chacun a son rôle. On a les développeurs, on a les gens qui vont louer les machines et qui vont propager les infections. On a la personne qui peut être juste un locataire de ransomware qui va être destinataire de la production, c'est-à-dire les données chiffrées, et peut-être celui qui viendra au contact de l'entreprise, de l'entité ciblée, pour pouvoir demander une rançon.
Je vous interromps juste deux secondes. Souvent, on me dit « oui, mais moi, j'intéresse personne ». Donc, est-ce que vous savez tout de suite dire, en fait, si vous intéressez tout le monde? Quelle est la réponse à cette question ou à cette remarque?
Alors, moi, je vous dirais qu'en fait, tout le monde est impacté. Le but, c'est pas de savoir si on va être victime, mais probablement de savoir quand est-ce qu'on le saura. En fait, on a deux typologies publiques. On a d'un côté des groupes de cybercriminels qui vont chercher à impacter un gros groupe. Donc, soit en passant par les fournisseurs, enfin, en passant par les clients. Et là, on est vraiment sur une attaque ciblée. Mais ça représente très peu. Et ce sont des groupes qui sont très, très bien organisés et qui seront associés aussi bien le côté sociable, donc la recherche de documents, et donc que ce soit sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, et qui vont vraiment cibler une cible. Mais ça représente peu. Mais par contre, quand le coup est réussi, c'est à coût de millions. Et on a aussi le groupe qui, lui, va s'attaquer au plus grand nombre. Donc, c'est un peu la pêche au chalut. C'est d'impacter le maximum de monde en se disant que, de toute façon, s'il y en a 100 qui sont impactés, il y en a bien 10 qui paieront et paieront pour tous les autres. Donc, vraiment, ça impacte toute typologie, toute taille d'organisation. Là, vous avez, par exemple, un exemple de tout ce qui est hacker de Logbit qui ont notamment attaqué la mairie de Saint-Cloud. Et on a eu énormément de mairies comme ça, de collectivités territoriales qui ont été impactées, mais aussi de grands groupes. Et croyez-moi, une fois que ça arrive, ces attaques, c'est vraiment quelque chose qui va bloquer l'activité de l'entreprise, et c'est souvent très difficile de s'en remettre.
Alors, juste un petit point, parce que c'est souvent des questions qui sont posées. Il n'y a pas de secteur privilégié, ça peut très bien être dans le textile, l'agroalimentaire, enfin voilà. Il n'y a pas de taille. La taille n'intéresse les cybercriminels que pour le montant de la rançon qu'ils vont donner, puisqu'en général, ils sont assez cohérents pour insister quand même à payer la rançon. Et surtout, il n'y a pas de lieu géographique. Souvent, on entend, moi, je fais la campagne, je ne crains rien. Dans le domaine du cyber, c'est un non-sujet.
Voilà, tout à fait. Surtout que dans le cas de l'attaque au chalut, hein, vous ne savez pas, les cybercriminels ne savent pas qu'ils vont impacter. Mais une fois que la victime va rentrer en contact avec eux, là, ils sauront comment rentabiliser et comment demander de l'argent.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, Denis, comment ça se passe concrètement, le help desk d'un cyber pirate? Parce que ça m'a étonné, moi, qu'on m'a raconté. Taper 1 pour payer, taper 2, voilà. Vous pouvez nous dire ça en quelques mots?
Je vous dirais que de toute façon, ils sont très professionnels et ils sauront, alors, d'un côté, négocier, parce qu'il ne faut pas croire, hein, à partir du moment où vous avez un cybercriminel qui entre en relation avec une victime, ils vont négocier. D'abord, ils demandent un montant, et si la victime n'est pas enclin à payer, ils pourront faire des ristournes. Et en même temps, une fois qu'ils auront fini de faire la transaction, ils pourront même vous donner des conseils en vous disant « Ah, mais c'est par là que je suis rentré, hein. Vous devriez faire attention. » Ils vous donnent, c'est un peu le service ajouté. En attendant, derrière, c'est quelque chose qui est vraiment dramatique quand ça touche le milieu de l'entreprise, des associations de toutes victimes. Alors justement, réagir en cas de cyberattaque. Alors on parle de tout ce qui est cyberattaque. Je vais vous faire ça un peu en trois phases. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de quand on est victime d'une cyberattaque, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les premiers réflexes? C'est vraiment la première phase. Première chose, on alerte immédiatement le support informatique, quel qu'il soit. Que ce soit l'entreprise, que ce soit des ressources internes, ce sont les premiers intervenants, ce sont les premiers pompiers sur place. Dans un deuxième temps, il va falloir isoler les systèmes attaqués, que ce soit les systèmes qui soient locaux ou qui soient distants. Une fois qu'on a, par exemple, un ransomware, un rançon logiciel qui est dans notre réseau, comme le disait Barnabé, il va d'abord regarder un peu tout ce qui se passe. Donc, quelles sont les connexions, quels sont les endroits où on peut trouver de l'information. Donc, il va essayer d'arriver, de faire du repérage, il va cartographier votre réseau, probablement des fois même mieux que certaines entreprises privées, et il va rechercher les données qui sont intéressantes. Donc, PDF, Excel, Word, les bases de données, tout ce qui correspond en fait à des documents qui permettent à une entreprise de travailler et sur lequel il va y avoir des données personnelles, des documents importants. Donc, il va commencer à exfiltrer. Et ensuite, il va cryptologuer. Donc, d'abord, on isole le système attaqué. Il va falloir constituer une équipe de gestion de crise où il va falloir associer toutes les personnes, aussi bien au niveau des ressources financières, les décideurs, le RH, parce qu'il ne faut pas croire, une fois que ça arrive dans une entreprise, c'est un tsunami. Les gens se demandent ce qui se passe, sont en questionnement. Donc, cette gestion de crise, il va falloir associer un maximum de personnes. Et il va falloir ensuite commencer à penser suivi et suivi de l'activité. Alors, une fois qu'on a isolé tout le système, il va falloir documenter tous les événements et les actions réalisées. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir retrouver les traces de l'infection, de savoir par où c'est venu, de manière à pouvoir isoler et pouvoir retracer quelles ont été l'attaque. Ça va permettre de sécuriser le système et en même temps, ça permettra de donner des preuves tangibles aux enquêteurs qui seront sur place dans le cadre du traitement de la procédure. Donc là, c'est vraiment une phase de premier réflexe.
Alors, je commence à avoir quelques questions dans le chat, et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les adresser, à Gauthier ou à moi. Justement, donc là, j'ai une question. Quand on détecte un mail, donc ça, c'est plutôt dans l'anticipation dont on pense, effectivement, qu'il est vérolé, on n'ouvre pas la pièce jointe, il faut le signaler, et à qui ?
Alors, justement, ça, c'est une très bonne question. On reçoit un mail, on a un doute, hein, il faut toujours vérifier, et il va falloir le vérifier auprès de la personne qui est chargée de cela. Donc, ça dépend, en fait, de la taille de votre entreprise. Quand on est sur certaines entreprises TPE-PME, on va souvent avoir un DPO ou avoir quelqu'un qui va avoir une casquette vraiment informatique et qui va être la personne qui va pouvoir vous dire si effectivement vous avez bien fait. De l'autre côté, dans d'autres groupes, ça va être vraiment une personne qui a une pure casquette informatique qui va s'occuper notamment de l'organisation des réseaux, celle qui va vous donner les accès. Mais en attendant, vous, quand vous recevez, vous devez toujours signaler en interne que vous avez reçu quelque chose qui vous semble bizarre et lever le doute. Et effectivement, le mail... À partir du moment où vous ne cliquez pas, vous n'ouvrez pas de piège jointe, vous ne cliquez pas sur un lien distant, parce qu'attention, la piège jointe, la macro Excel, ça c'était la manière de pirater, on va dire un peu old school. Maintenant, le but, c'est souvent d'amener la personne à cliquer sur une page Internet, et elle va avoir un système qui n'est pas suffisamment protégé, un navigateur qui n'est pas à jour, notamment un Chrome, il y a eu des failles Chrome, là, par exemple, récemment, elle va cliquer, et là, elle va télécharger un malware qui va s'installer de manière silencieuse sur son PC.
Sans s'en rendre compte.
Sans s'en rendre compte. Donc attention, c'est aussi le lien qui est contenu dans le mail. C'est pas uniquement la pièce jointe. Donc effectivement, si un mail vous semble bizarre, eh bien vous devez en référer en interne soit à la personne qui s'occupe de la partie technique, soit de la personne qui s'occupe de tout ce qui est lutte contre les escroqueries. Vous avez souvent des services comme ça qui sont organisés. Mais effectivement, il faut tout de suite identifier le bon interlocuteur et le signaler. Et comme on signalerait un piratage, on signalerait aussi un changement de RIB, et on parlait tout à l'heure de tout ce qui était arnaque aux faux ordres de virement, on signale une opération qui demande un changement de RIB, ou qui demande le paiement d'une facture qui est une facture exorbitante. Donc voilà, il faut vraiment ne jamais rester seul et savoir en parler autour de soi.
Alors, une autre question, je les donne un petit peu au fil de l'eau. Vos recommandations en cas de rançonnage, me demande-t-on ? Effectivement, ça y est, le mal est fait, je me suis fait pirater mon système d'information, on me demande une rançon, à ce moment-là, effectivement, on a fait ce que vous dites, hein, j'alerte mon support informatique, on a isolé les systèmes, etc. On me demande une somme importante, à votre avis, je commence à en parler à qui pour me faire accompagner, parce que nos recommandations, c'est de ne pas payer les rançons, hein, je pense que vous allez le rappeler, vous direz pourquoi, mais néanmoins, que fait-on ?
Alors, moi, je vous dirais que de toute façon, à partir du moment où on a le rançon logiciel, tout le monde va se rendre compte. Parce qu'une fois que les données ont été exfiltrées, les ordinateurs vont être cryptologués, donc tout le monde va être dedans. Donc, je vous parlais de tout ce qui était gestion de crise. Donc, à qui on en parle ? Eh bien, on va en parler tous ensemble au sein d'une équipe de gestion de crise, avec les dirigeants, les techs, les personnes qui s'occupent de tout ce qui est relations clients. Parce que ça veut dire quoi ? Un rançon logiciel dans un système, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est aveugle, on est sourd et on est muet. On ne peut plus parler à ses fournisseurs, on ne peut plus parler à ses clients, on ne peut plus faire tourner. Donc voilà, donc on va en parler tous ensemble. Et effectivement, je dirais que, bien sûr, il ne faut pas payer. Jamais, jamais, on ne doit payer. À partir du moment où vous avez payez. Le verre a déjà été dans le frigo et ne vous inquiétez pas, si vous avez payé, il reviendra parce que vous êtes un bon client. Donc clairement, non, on ne paye pas. Et en plus de ça, vous contribuez à une économie du malware. Plus les gens sont enclins à payer, plus ce sera florissant. Donc voilà, donc on était là sur une partie de premier réflexe. On a maintenant le pilotage de la crise. Parce que c'est pas le tout de se rendre compte qu'on a été attaqué. Après, il va falloir reprendre son activité. Donc il va falloir mettre en place les solutions de secours. Les solutions de secours, ça va être quoi? C'est-à-dire que si vous avez bien fait le travail, vous avez sauvegardé de manière régulière l'ensemble des documents qui sont importants de votre infrastructure. Donc il va falloir remettre tout ça en place. Donc vous avez isolé, vous allez utiliser ce qu'on appelle un plan de secours de reprise d'activité et vous allez le déclencher. Ensuite, très important, la déclaration, parce qu'on doit en parler non seulement en interne, on doit en parler aussi à d'autres personnes. On doit en parler à l'assurance, qui aura probablement des moyens de vous épauler au niveau économique, notamment dans les phases de rémédiation, qui peut être une phase coûteuse. On va en parler à sa banque, parce que dans les documents exfiltrés, on va peut-être avoir des choses, des RIB, et une activité de la part des cybercriminels qui vont essayer de rentabiliser tout cela en faisant des virements en lieu et place de l'entité attaquée. On va en parler à la CNIL. On en parlera dans les 72 heures si des données personnelles ont été impactées. Données personnelles impactées, ça veut dire qu'elles ont été consultées, qu'elles ont été téléchargées, qu'elles ont été modifiées. Et ça, c'est très important, parce que derrière, si vous n'en parlez pas et que vous mettez la poussière sous le tapis, vous risquez d'avoir de gros, gros problèmes. Et croyez-moi, à partir du moment où vous avez une exfiltration de données personnelles, les pirates, eux, vont se donner la cœur joie pour les rentabiliser. Et bien sûr, déposer plainte. On va déposer plainte à qui? Côté C3M, par exemple, côté gendarmerie, on va pouvoir en parler aussi à l'OCLCTIC, côté donc des CPJ. Donc on a pas mal d'interlocuteurs, côté police judiciaire qui vont pouvoir travailler dans le domaine d'activité. C'est vraiment le côté cyber et enquête cyber. Sur les OIV, donc les opérateurs d'importance vitale, ce sera la DGSI qui ira un service aussi judiciaire destiné aux entreprises à protéger en priorité et aux opérateurs d'importance vitale.
Oui, juste un peu, non, parce que souvent, voilà, revenir juste sur tes aspects de plainte, parce que souvent les gens trouvent ça chronophage, compliqué, etc. Il y a deux aspects dans la plainte, avant l'aspect physique, je dirais, de vraiment déposer plainte et après venir les forces de l'ordre. Alors pourquoi? Parce que les forces de l'ordre, elles, sont localisées territorialement, donc un peu comme le prestataire n'est pas loin, elles vont pouvoir arriver assez rapidement avec une partie, souvent une partie enquête, une partie expertise, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et parfois, le cas échéant, une partie négociateur de crise. Alors comme on l'a dit, le principe c'est de pas payer la rançon, le but c'est pas de négocier une baisse de rançon, même si on sait que parfois ça peut arriver, mais c'est aussi de gagner du temps. Il ne faut jamais chercher à rentrer dans une phase de négociation soi-même avec un cybercriminel en se disant voilà, je vais l'avoir, déjà on est dans une phase un peu de sidération, donc c'est pas évident de reprendre ses émotions, et ça c'est l'aspect important. Ce qui est très important dans l'aspect plainte, c'est que déjà l'assureur, très souvent, va vous dire moi je n'interviendrai que s'il y a une plainte. Et la plainte, le système est ainsi fait, c'est le seul moyen de déclencher l'action de la justice derrière, qui retrouvera peut-être ou peut-être pas les criminels, mais si jamais on retrouve des criminels et qu'on saisit un certain nombre d'avoirs, c'est le seul moyen de récupérer peut-être des sommes perdues, etc.
Et ce que vous nous expliquez aussi, dans un autre contexte, colonel, c'est que c'est les plaintes que les entreprises et ou les particuliers déposent qui permettent quelquefois de remonter la file et de retrouver les cybercriminels, parce que les informations sont ainsi recroisées et qu'on peut. Il y a eu une opération en Ukraine d'ailleurs qui découle un peu de toutes les informations qui ont été remontées sur différentes attaques.
C'est exactement ça. Enfin, alors, je veux dire, souvent on dit si vous ne portez pas plainte pour vous, portez plainte pour les autres, mais vous voyez bien que c'est des pulls, et en général, nous ne voyons pas la face. Les vrais cybercriminels, ils ne sont pas en France, ils ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à être ailleurs. Alors, en général, là où ils sont implantés, ils n'attaquent jamais ce pays-là, ils attaquent ailleurs. Et qu'effectivement, c'est pour nous, c'est un pulse hein, qu'il faut remonter, et un petit indice par-ci, un petit indice par-là peut permettre de les neutraliser et éventuellement de récupérer certaines sommes qu'on saisit parfois.
Alors, j'ai une question assez précise. Quand on a eu des tentatives d'intrusion ciblées, par exemple, avec une utilisation donc, de Tor, donc c'est un... Alors, je ne sais pas vous allez expliquer ce que c'est, hein, mais avec utilisation de prénom, nom de famille sur un site comprenant des données sensibles, est-il utile de poser une main courante ou faut-il porter plainte déjà à ce stade?
Alors, si quand on parle de Tor, hein, pour ceux qui connaissent pas Tor, c'est le principal navigateur utilisé pour aller sur le Darknet. Alors le Darknet, en fait, c'est pas un Internet très complètement parallèle, mais c'est, enfin, c'est toute la partie Internet qui n'est pas visible, j'allais dire, de votre moteur de recherche préféré. Et on utilise ce système-là qui permet en plus de chiffrer les données, d'être anonymisé et puis d'avoir des adresses un peu plus compliquées. Alors, j'avoue que je
C'est-à-dire que quand on voit effectivement qu'on a utilisé déjà des données personnelles...
Oui. Voilà. Si quelqu'un vous alpague avec des données personnelles que vous avez données à personne, c'est que manifestement, à un moment donné, il y a eu une violation de données. Alors, qui peut venir de n'importe où. Hein. Ça peut être votre compte sécurité sociale qui a été piraté, ça peut être n'importe quoi. Là, il est important de porter plainte à partir du moment où vous voyez qu'on utilise vos données de la part de quelqu'un qui légitimement les a pas.
Voilà, donc ce type de données est retrouvable dans des choses. Dans le cadre de tout ce qui est CryptoLocker, il faut savoir qu'on a souvent derrière, quand les gens ne payent pas, des données qui se retrouvent publiées publiquement et qui vont être du pain béni pour pas mal de pirates qui vont les utiliser pour faire différentes arnaques.
Oui, c'est-à-dire que dès qu'on a votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone, c'est d'autant plus facile d'essayer de faire un phishing. D'ailleurs, j'ai une question à ce sujet. Est-ce qu'il existe un système de scan, comme pour les mails où on voit spam ou possible spam, pour détecter dans les mails les liens que vous dites, etc. Est-ce que c'est l'antivirus qui fait ça d'habitude ou est-ce qu'il faut des systèmes un peu plus complexes? Quelles sont vos recommandations pour essayer de déveiller sur la sensibilité de certains messages dont on ne pourrait pas se douter à première vue humaine comme ça qu'il y a un problème?
Alors, souvent vous avez des systèmes de réputation en termes de mails maintenant, dans les solutions propriétaires, qui permettent, alors je ne suis pas là pour faire de promotion pour une société ou autre, mais où en gros, la personne qui vous envoie un mail va se retrouver notifiée en disant « il y a une personne qui cherche à vous envoyer un mail, est-ce que vous l'acceptez ou pas dans vos interlocuteurs ?» Donc là, on est sur la réputation. Maintenant, voilà, sur le cas de la question que vous avez été posée, la donnée personnelle se retrouve, la personne a été victime, clairement, d'une utilisation de données personnelles. Pour continuer en tout cas sur le...
Mais justement, sur ces aspects-là de fichiers, quand il y a un lien, alors c'est vrai qu'il y a certaines solutions qui arrivent à analyser le lien et ils vous mettront jamais, enfin rarement c'est interdit, mais ils vous disent voilà, potentiellement frauduleux, etc. La difficulté avec beaucoup d'escroqueries, et je pense que vous l'avez vu, c'est que maintenant ils utilisent plus le mail en lui-même, ils n'utilisent pas un PDF, mais très souvent une image. En fait, c'est une image d'un document. Et l'image est parfois même un petit peu modifiée. On le voit, je pense que vous avez tous reçu des convocations du directeur général de la gendarmerie. Elles sont toujours un petit peu différentes. Et ce qui fait qu'après, c'est très difficile de faire de la comparaison d'images. Autant comparer un document et trouver des mots-clés, c'est évident. Mais une image, ça reste une image. Et il la modifie peut-être à la marge d'un jour sur l'autre. Et c'est plus difficile.
En complément de la question, je vous garde deux secondes, Lionel. Et en cas de tentative d'intrusion déjouée, est-ce qu'il faut quand même déposer plainte? C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand on est attaqué et qu'on est attaqué et qu'il y a vraiment un problème, est-ce que déposer plainte, vous l'avez indiqué, ça permet aussi de recroiser les informations, de déjouer de futures attaques, de poursuivre les personnes malveillantes sur Internet. Mais est-ce que quand on a déjoué, est-ce qu'il faut déposer plainte à chaque fois? Parce que le nombre de fois où on arrive heureusement à déjouer des attaques sont nombreuses. Vous auriez peut-être envie de dire, en fait, nous on aimerait tout chiffrer en termes de statistiques, mais finalement, qu'est-ce qui est vraiment utile?
Alors, statistiques, oui, non, mais c'est en termes de connaissance de la menace. C'est-à-dire que si on peut, parce qu'on a eu 4-5 personnes qui ont été victimes d'une tentative, interpeller les auteurs, parce que la tentative reste quand même punissable, interpeller les auteurs avant qu'ils arrivent à faire quelque chose de concret, de réel, c'est toujours l'essentiel. C'est vrai que c'est chronophage, on va savoir, on a tendance à se dire, j'ai pas de préjudice, on s'en sort bien, etc. Un signalement un minimum me paraît essentiel, ne serait-ce que pour le partage de l'ensemble de la communauté sur les éléments. Et c'est souvent comme ça qu'on commence à détecter des premières modalités d'attaque. C'est des signaux faibles, entre guillemets, de choses qui n'ont pas réussi, mais qui peuvent permettre de travailler par la suite.
Et d'ailleurs, vous les voyez, les signaux faibles sur cybermalveillance?
Alors, on en détecte par rapport à tout ce qui est par correspondance victime, qui nous permet notamment de voir, tout est pris en compte, et à partir du moment où ça n'entre pas dans une case, c'est qu'on est sur un nouveau phénomène. Donc ça nous permet, on a vu les arnaques brigades de protection des mineurs, arriver en avance de phase, parce que tout d'un coup, il y avait une arnaque particulière que nous n'avions jamais vue et qui n'était pas catégorisée chez nous. Donc on fait très attention à ce genre de choses-là, à ce genre de signes faibles, de manière justement à pouvoir s'adapter et pouvoir d'emblée rédiger, toujours sur le même triptyque, hein, les premiers réflexes, le bon interlocuteur, que faire en cas. Donc en gros, pouvoir assister les personnes qui ont été victimes. Voilà. Le dépôt de plainte, comme ça a été rappelé, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment essentiel et qui vous sera demandé. Dans le cadre de tout ce qui est pilotage de crise, ensuite, il va falloir penser, donc pendant que l'affaire va continuer sur le côté procédural et sur le côté judiciaire, l'entreprise, l'entité qui a été impactée, elle, après avoir identifié l'origine et les enjeux de son attaque, va devoir corriger un petit peu tout ça. Donc là, on est dans une phase de rémédiation. Ce qui est très important dans le cadre d'une cyberattaque, c'est qu'il faut toujours gérer sa communication. Et là, vous avez marqué, avec le juste niveau de transparence. Vous ne pouvez pas dire que quelque chose n'a pas eu lieu. Sinon, vous allez d'un côté mettre en panique vos clients, vos fournisseurs. Si vous êtes coté en bourse, le fait de dire qu'il n'y a rien eu, on va vous dire que vous n'avez pas été transparent et donc il y a un problème qui est beaucoup plus gros que ce que vous dites. Donc, il faut vraiment gérer sa communication. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile à faire lorsque vous êtes justement dans un état de sidération. Le pilotage, après le pilotage de cette crise, c'est la sortie de crise. Donc là, je finis sur ce propos-là parce que c'est vraiment, je pense, assez important, ces trois phases. La sortie de crise, c'est la remise en service progressive et contrôlée de son infrastructure. Il faut faire très, très attention à ne pas tout rallumer quand le service, quand le système a été pour soi nettoyé, on a remis les sauvegardes, on est prêt à refonctionner, on ne peut pas tout rallumer. Il faut y aller au fur et à mesure, de manière à pouvoir surveiller le fonctionnement du système et voir s'il a un comportement normal. Et de tout ça, lorsqu'on a été victime d'une cyberattaque, il va falloir tirer les enseignements. Il va falloir définir les endroits où on était bon, les endroits où on n'était pas bon. Si jamais on a eu un problème de remise en route des sauvegardes et donc de réinstallation du système, c'est qu'on n'a pas été bon, donc il va falloir évoluer. Ce que je veux dire, c'est qu'il arrive à tout le monde d'être victime d'une cyberattaque. Faut pas dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute et je suis responsable de tout ça. D'abord, vous n'êtes pas seul. Vous avez d'un côté, vous avez les services de l'État, vous avez des gens qui vont pouvoir remédier à ça, qui sont des personnes qui sont référencées, qui savent ce qu'est le métier de remédiation et qui vont pouvoir vous accompagner. Et il faut aussi en parler autour de soi. À l'heure actuelle, s'il y a des chiffres noirs qui existent en matière de cybercriminalité, c'est parce que les gens me disent si j'en parle, je vais me subir toutes les fautes. Eh bien non, faut en parler à un moment ou à un autre et avoir le courage. C'est toujours plus dur pour les premiers, mais là, maintenant, il y a des gens qui en parlent aussi bien au niveau des collectivités qu'au niveau des entreprises. Bon, voilà, moi, je voulais parler un petit peu de tout ça. Ce contenu, vous pourrez le retrouver en ligne sur notre site. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons beaucoup de... chez Cybermalveillance, nous avons énormément de contenu de sensibilisation. Et là, on a un support méthodologique qui est beaucoup plus développé que vous trouvez sur cybermalveillance.gouv.fr en ce qui concerne...
Alors, je recommande, hein, bien sûr, d'aller visiter le site. Nous-mêmes, dans nos informations numériques, que ce soit dans le MEDEF Hebdo ou dans notre newsletter numérique, on passe souvent vos supports, bien sûr, dont celui-ci. Alors, j'ai encore quelques questions et comme l'heure tourne, je privilégie les questions de nos auditeurs. D'abord, une première question, colonel. L'adresse pour faire suivre les emails identifiés comme frauduleux, je recommande quoi comme adresse?
Allez, faut utiliser Signal Spam, un Signal Spam qui est une association voilà, qui récupère l'ensemble de ces données, alors qui les transmet une partie au fraudeur, une partie voit avec les opérateurs quand ils sont capables de les faire annuler. Voilà, les principaux opérateurs mail sont capables, comme je dis, dans certains cas, à défaut de supprimer le mail, parce qu'on ne supprime pas le mail, mais on peut le faire taguer comme étant un spam, etc. Donc c'est vraiment...
Alors, une autre question, on utilise de plus en plus, comme aujourd'hui, de visioconférence. Est-ce vulnérable ou pas? À quoi doit-on faire attention?
Alors, sur le côté visio, je dirais qu'on fait attention comme on fait attention avec son mail. C'est-à-dire que, normalement, ce qui est bien avec la visio, c'est que l'interlocuteur que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un de confiance, puisque vous l'avez accepté. Donc, déjà, on est un peu plus, on va aller un peu plus sécurisé. Maintenant, ce qui est le plus gros souci avec tout ce qui est visio, c'est quand vous le faites en dehors de tout système. Il faut savoir que la visio, c'est bien, mais dans ces cas-là, si vous êtes en télétravail, que vous êtes en distanciel et que vous faites par la visio, vous devez vous connecter sur le système informatique de votre entreprise et utiliser ce qu'on appelle un VPN. Donc là, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que si on fait de la visio, on fait de la visio, oui, mais avec un outil qui est un outil professionnel, donc un ordinateur qui est dédié à ça, qui utilise le réseau de l'entreprise, donc un VPN, ce qui permettra d'authentifier l'ordinateur, d'authentifier le compte, et de savoir que c'est bien le bon interlocuteur. Donc voilà, moi je vous dirais que c'est ce genre de choses-là. En fait, dans le cadre de tout ce qui est... Et la visio, c'est un système un peu plus large. On parle vraiment de télétravail. C'est en fait toute la sécurité qui est liée aux personnes qui sont en mobilité.
Alors, je vais vous laisser peut-être finir sur les deux dernières slides parce qu'on va parler un peu de ce qu'on fait ensemble. Et donc, je fais une petite publicité pour notre collaboration.
Alors, tout à fait. Alors, ce que nous proposons également, c'est tout ce qui est diagnostic et accompagnement. Je vous parlais de tout ce qui était parcours victime. On a aussi un parcours de sécurisation qui permet aux TPE, PME, associations et collectivités de pouvoir trouver de l'aide auprès d'un prestataire référencé et là, d'une personne labellisée, expert cyber. On a plus de 200 à l'heure actuelle qui sont sur l'ensemble du territoire. Et là, ils sont compétents aussi bien sur le côté infrastructure, sur le côté téléphonie, fixe, mobile. Et vous faites votre parcours de sécurisation à la recherche d'un intervenant. Donc là, c'est un service que nous proposons pour que les gens puissent être accompagnés localement par une personne, par une entité qui est labellisée auprès de l'AFNOR. Alors, il est labellisé AFNOR et c'est une labellisation qui est renouvelable tous les 3 ans. Quelqu'un qui pourra directement, donc en avance de phase, avant que les problèmes arrivent, d'être accompagné. Donc vous avez sécurisation.cybermalveillance.gouv.fr. L'autre chose qui est très importante en matière de prévention, ce sont les alertes de cybersécurité. Nous faisons, avec notamment en lien avec l'ANSSI, nous éditons des bulletins de sécurité. Le dernier en date, ça correspondait à des vulnérabilités Chrome, donc qui impactent vraiment tous les publics, mais du particulier au professionnel, où là, il fallait vraiment mettre à jour et de manière rapide. Donc, nous établissons une alerte, nous rédigeons avec la NSSI, qui est vraiment l'autorité nationale en la matière, que nous amenons à l'ensemble de nos membres, dont le MEDEF, qui vont pouvoir se faire le vecteur de ces alertes et les amener à l'intégralité de leurs membres. Et c'est très important, c'est de pouvoir informer en temps réel d'une vulnérabilité critique. Donc ça, c'est très important, et c'est en cela, c'est l'une des actions que nous avons aussi avec le MEDEF en tant que membre, et qui est pour nous très importante pour l'ensemble de nos publics.
Je le redis, hein, quand vous recevez une alerte cyber de notre part, nous n'inventons rien, on se repose sur les sachants, et donc l'ANSSI Cybermalveillance rédige l'alerte, nous la diffusons. L'Association des maires de France nous a rejoints dans ce réseau de diffusion, ce qui est très utile, et donc nous remercions tous nos membres, MEDEF territoriaux, fédérations qui relaient ces alertes, et à tous ceux qui se sont intéressés au processus pour éviter que des failles très répandues n'impactent des entreprises, j'allais dire un peu bêtement, si jamais les mises à jour n'ont pas été faites. Merci en tout cas de cette collaboration.
Et une dernière chose, je vous parlais de sensibilisation et prévention. Parce que vraiment, la sensibilisation et la prévention, la sensibilisation, c'est le premier rempart contre les cybermalveillances. Si vous avez un public qui est informé, qui connaît les différentes grandes cybermalveillances, il saura s'en prémunir, il saura au moins les détecter. Et en même temps, vous avez tout ce qui est usage. Donc, vous parlez de tout ce qui est usage professionnel, personnel, la segmentation qui doit avoir lieu, les usages mobiles. Dans tout ça, nous partageons. Venez sur notre site, vous verrez, vous trouverez probablement des contenus qui pourront vous aider d'un côté à comprendre comment vous organiser et comment prévenir tout ce qui est cybermalveillance.
Mais écoutez, il est 13h, je vous remercie infiniment de votre participation, je pense que le contenu sera rediffusé. Je voulais aussi dire que ne pas hésiter à nos MEDEF territoriaux, nos fédérations, de se rapprocher soit de cybermalveillance pour avoir un expert cyber à proximité, et bien sûr de la gendarmerie, pour avoir des interventions éventuellement plus locales, plus proches du terrain. Je sais que vous êtes très intéressé d'intervenir et en général nos entreprises le sont aussi, donc on vous remercie beaucoup de tout ce que vous faites pour nous. Et il y aura bientôt d'autres interventions donc sur la sécurité économique, le programme a été diffusé, n'hésitez pas à vous y reporter. Nous avons aussi la chance d'avoir le 17 mai l'intervention en assemblée générale permanente du général de division Gauger, commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Donc il pourra vous représenter aussi tout l'accent que la gendarmerie met sur cette sécurisation de nos activités numériques. Merci infiniment à tous les deux et à très bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par l'Académie MEDEF. Nous tenons à remercier les animateurs et organisateurs ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de cet enregistrement. Découvrez l'ensemble des podcasts sur le site l'académiemedef.fr. Le mouvement des entreprises de France vous remercie pour votre écoute et vous dit à bientôt.